Bonsoir Félix, vous avez tous pris un petit paquet de trois feuilles. D'abord, je vous ai mis une feuille de route qui en quelque sorte qui résume ce que nous avons vu la fois passée. Vous vous souvenez, quatre textes de l'Ancien Testament. Nous avions choisi des textes de genre littéraire différents. Nous avions vu l'épisode du buisson ardent. L'intérêt, c'était de reconnaître un schème de genre littéraire, de récit, de vocation et de mission. Puis nous avons vu le don du décalogue, selon la version du Deutéronome, puisque le décalogue, les 10 commandements apparaissent deux fois dans la Bible, dans le livre de l'Exode, mais aussi au livre du Deutéronome, où Moïse, aux portes de la terre promise, rappelle ce qui s'est passé et ce qui a été dit au livre de l'Exode. Nous avions souligné un peu plus la différence avec la version de l'Exode quant à la justification du commandement important du respect du saint. Nous avions vu le psaume 1 comme psaume d'entrée dans le psautier, en comprenant pourquoi il était appelé le psaume des deux voix, dressant un portrait contrasté entre le bonheur, la béatitude promise aux justes qui se plaisent dans la loi du Seigneur par rapport aux impies. Enfin, un quatrième épisode, la guérison de Naaman le Syrien, au deuxième livre des rois, faisait valoir l'art narratif consommé avec lequel l'écrivain biblique peut mettre en scène les dizaines de personnages, les relations entre eux et comment elles fonctionnent. Voilà pour un rappel et un petit memento par écrit de ce que nous avons vu la fois passée. Je vous invite à prendre la feuille annexe 30. Je vous ai mis les débuts de trois écrits du Nouveau Testament. Commençons par le début des quatre premiers versets de l'évangile de Luc. Le début de la lettre aux Hébreux et le début de la lettre aux Romains. Ce ne sont pas des passages très longs, mais chaque fois très ciselés, on va le voir. Parmi les évangélistes, il n'y en a que deux qui donnent une forme de prologue. Si vous voulez, Matthieu commence directement par la généalogie de Jésus. Marc commence d'emblée par le surgissement de Jean-Baptiste au désert. Mais alors Luc commence par ce qu'on appelle parfois une préface, une dédicace. Prologue, on verra l'appellation qui convient mieux, quatre versets qui introduisent un peu son propos, son intention, sa méthode. Quant à Jean, je le savais, le début de son évangile, c'est sous vaste prologue joannique de Jean 1, verset 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, etc. Jusqu'au verset 18, le Père que nul ne peut voir, c'est bien le Fils unique, lui, nous l'a fait comme ça. Le prologue de Luc. Le fait pour quelqu'un qui écrit une œuvre littéraire dans l'Antiquité, notamment une œuvre historique, le fait de donner un prologue qui décline son intention était connu. Luc, donc, qui s'adresse à un public notamment non-juif, va commencer par respecter cette convention de donner comme un prologue intentionnel à son œuvre. Je vous donne un exemple de prologue dans l'Ancien Testament, au deuxième livre des Maccabées, qui commence par une forme de préface de l'auteur, qui dit ceci. C'est rare qu'un auteur donne son identité dans les livres bibliques, c'est un cas assez exceptionnel, avec Saint-Luc de parler d'emblée en jeu et de dire son intention. La préface de l'auteur au deuxième livre des Maccabées. Quant à l'histoire de Judas Maccabée et de ses frères, la purification du très grand sanctuaire, la dédicace de l'autel, ainsi que les guerres contre Antiochus Épiphane et son fils Eupator, les apparitions célestes produites en faveur des braves qui luttèrent généreusement pour le judaïsme, au point que malgré leur petit nombre, ils pillèrent toute la région et poursuivirent la foule des barbares, qu'ils reconquirent le sanctuaire célèbre dans tout l'univers, délivrèrent la ville et rétablirent les lois menacées d'abolition. Le Seigneur ayant été propice de toute sa mansuétude, tous ces faits ont été développés en cinq livres par Jason de Cyrène, celui sur lequel l'auteur s'appuie, nous essaierons, quant à nous, de les résumer en un seul ouvrage. Et vous voyez le genre littéraire un peu fleuri. Considérant en effet le flot des chiffres et la difficulté qu'éprouvent ceux qui désirent se plonger dans les récits de l'histoire, à cause de l'abondance de la matière, nous avons eu le souci d'offrir un agrément à ceux qui se contentent d'une simple lecture, une commodité à ceux qui se plaisent à confier les faits à leur mémoire, de l'utilité à tous ceux qui rencontreront ces pages, etc. Voilà un genre de prologue d'un style assez fleuri et, nous dirions, assez ampoulé, même si c'est admirablement écrit en grec. Le prologue de Luc, par contraste, est beaucoup plus sombre. Je vous le lis d'abord, vous le connaissez, ces quatre versets, dans la version de Platon, version courante. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après moi m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Dans le grec, c'est une seule phrase. On va voir plus en détail. Le sous-titre de la Torah, donner un sous-titre, c'est toujours un choix. Dédicace. Certes, il s'adresse à l'illustre Théophile, mais il y a plus qu'une dédicace. Il parle un peu de ses sources, de son intention, de son sérieux historique, etc. Je le prends maintenant dans la version plus littérale que vous avez sur l'annexe 30, qui est une traduction reprise au père Jean Habermas. Je la lis. Puisque vraiment beaucoup entreprirent de recomposer un récit au sujet des faits qui se sont trouvés pleinement accomplis parmi nous, selon ce que nous livrèrent ceux qui sont devenus depuis le commencement témoins oculaires et hommes de service de la parole, alors il me sembla bon à moi aussi, me trouvant avoir suivi attentivement les précisions tout depuis l'origine, de t'en écrire avec suite, l'illustre Théophile, afin que tu reconnaisses, au sujet des paroles dont tu fus instruit, littéralement catéchisé, la solidité. Le mot final, il sonne comme un point d'ordre. Une intention de solidité. Les traits reliés par un petit tiret, contrairement à l'orthographe, signifient simplement qu'il s'agit d'un seul mot dans le grec, mais dont l'expression composée prend les diverses nuances. Et j'ai fait une petite faute à la deuxième ligne, « affaire », j'ai mis « rhéma » en grec, c'est le terme « pragma » en grec, pour ceux qui s'intéressent au grec. Enfin, ça c'est un détail. Voyez comment la phrase est construite. « Puisque vraiment beaucoup, selon ce que nous livrèrent, il me semble bon à moi aussi, afin que tu... » Puisque, selon, afin que, c'est ce mot logique qui articule la pensée de cette longue phrase. Une première partie, après laquelle j'ai dit virgule, se termine par la parole, fin du verset 2. Dans la deuxième partie, au sujet des paroles dont tu fus instruit. La parole au singulier, ça désigne peut-être une personne, on va voir pourquoi. J'ai noté d'un petit carré les personnages, si je peux dire, qui interviennent. Beaucoup, ceux qui avaient commencé au moment où Luc rédige, il est dit, il y a beaucoup qui ont entrepris un récit évangélique. Les événements qui se sont trouvés accomplis parmi nous. Or, Luc n'était peut-être pas directement un témoin oculaire, c'est un compagnon de Paul, mais il y a là un « nous » qui sonne comme un « nous » ecclésial. Les événements qui se sont accomplis, ça nous concernait, nous, parmi nous, notre humanité. Puis, au verset 2, « Ceux qui sont devenus depuis le commencement témoins oculaires et hommes de service de la parole, c'est les témoins directs de la parole, les serviteurs de la parole aussi, les apôtres qui ont commencé à prêcher. » Et puis, il y a le rédacteur, moi aussi, ce qui me semble moi. Puis, l'illustre Théophile, son destinataire. Ça, c'est un peu les personnages. Il donne d'abord la raison de son entreprise. Il se coule dans la foulée de ce que d'autres ont commencé à faire. Eh bien, il se dit, pourquoi pas, moi aussi, offrir un récit et ensuite. Vraiment, beaucoup ont entrepris de recomposer un récit au sujet des choses pleinement accomplies. Eux ont entrepris de recomposer un récit, et lui, au verset 3, dit qu'il a l'intention de proposer aussi une écriture suivie, de t'en écrire avec suite, de manière suivie, organisée. Ça, c'est un peu son intention. Puis, il insiste sur ses sources. Selon ce que nous, les frères, ceux qui sont devenus depuis le commencement, témoins oculaires et hommes de service de la parole. Il semble bien que le de la parole qualifie à la fois les témoins oculaires et hommes de service. C'est les mêmes. Mais témoins oculaires d'une parole, ça veut dire peut-être que la parole ici est personnifiée. La parole, tu sais, la parole singulier, par excellence. Dire le verbe fait chair, Jésus. Donc, ceux qui ont été témoins oculaires et au service, serviteurs, la parole, bien, à partir de ses sources, il continue, il me sembla bon à moi aussi, et puis il spécifie la manière dont lui, comme les autres, a été attentif à recueillir des sources fiables, se trouvant avoir suivi attentivement avec précision tout depuis l'origine. Depuis le commencement, verset 2, signifiait, on peut le penser, depuis le commencement du ministère public de Jésus. Ici, tout, depuis l'origine, on sait que Luc va commencer son évangile par le récit de l'enfance. Il va remonter. De t'en écrire avec suite, faire un exposé suivi pour le dire plus simplement, il illustre Théophile, Théophile. C'est un nom de facture grecque. Théos, Philos, ami de Dieu, littéralement. Luc va s'adresser, à travers la figure de Théophile, à des auditeurs, des lecteurs, plutôt de langue grecque, venus du monde païen. À la différence de Matthieu, qui, on voit bien aux citations, les faits et à d'autres éléments, s'adresse manifestement davantage à des chrétiens venus du judaïsme. Et donc, derrière le Théophile, ce profil, tout homme ami de Dieu auquel il va s'adresser. Et puis il spécifie, donc, seulement le fil de ses prédécesseurs dans lequel il se coule, ses sources, son exposition suivie, mais son but finalement, c'est afin que tu, Théophile, reconnaisses au sujet des paroles dont tu fus instruit la solidité dont tu fus catéchisé. Autrement dit, Théophile a déjà entendu parler du Christ. Il a déjà une première initiation chrétienne. Mais le but de Luc, à travers son récit, c'est justement de l'introduire plus avant dans la connaissance de cet évangile et qu'il découvre que ce à quoi il s'est converti, ce dont il fut instruit, catéchisé, eh bien c'est un enseignement vraiment solide. Bon, somme comme un point d'ordre. Voilà pour ces quatre versets du prologue lucain. Je prends le début de la lettre aux Hébreux. Je vous le lis d'abord dans la version courante de Luther. Vous voyez que le prologue de Luc par rapport au prologue un peu fleuri des Maccabées est très précis. Les mots sont choisis et bien encadrés. De même, le prologue de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux n'est ni une lettre, ni aux Hébreux, ni de Paul. Elle est en corpus paulinien tout à la fin, parce que, quand même, il y a un certain nombre d'idées qui concordent assez bien avec les grandes idées de la théologie de Paul. Mais au départ, c'est sans doute une homélie très construite qui a été reprise pour être envoyée sous forme de lettre. Après avoir, à bien des reprises, c'est pourquoi elle ne commence pas comme les lettres de Paul. Moi, pour l'apôtre, on verra en dessous avec les Romains une adresse habituelle d'une lettre paulinienne. Ici, c'est tout à fait différent. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils, qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé le monde. Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être, et il porte l'univers par la puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Voilà une traduction audible, c'est la chanson de la Torah, de la donner en français possible, et ce qui est de nouveau dans le grec une seule longue phrase, de nouveau en quatre versets, elle a été découpée par la ponctuation en phrase plus brève pour la compréhension. Ici, pour vous dire la manière dont, légitimement, des traductions courantes, la Bible de Jérusalem, la Torah, en respectant les textes, mais éventuellement syntaxiquement, un peu différemment pour que ça soit audible. Je prends le texte maintenant dans une transposition plus littérale qui est due au père Roué, qui a beaucoup enseigné ici les écrits pauliniens, notamment aussi la lettre aux Hébreux à l'Institut. De nouveau, les expressions jointes par un petit tiret, ça signifie qu'il s'agit d'un seul mot dans le grec, mais avec, on essaie de rendre compte de tous les éléments, la racine, éventuellement le préfixe, le suffixe, toutes les nuances. En de nombreuses parties et selon de nombreuses façons, le temps passé, Dieu, ayant parlé au Père dans les prophètes, c'est à l'extrémité dernière des jours que voici qu'il nous parla à nous en un Fils. On continue avec un relatif, un Fils, qu'il disposa héritier de toutes choses, par qui précisément il fit les siècles, qui, en étant rayonnement de sa gloire et empreint de sa substance, aussi bien qu'en portant toutes choses par le verbe de sa puissance, en ayant effectué une purification des péchés, s'assit à la droite de la majesté dans les hauteurs. En étant devenu d'autant supérieur en pouvoir aux anges, que c'est un nom plus distingué par rapport à eux qu'il a hérité. On pourrait d'abord montrer comment, à travers toute une série d'expressions, affleurent des références au livre de la Sagesse au chapitre 7. On ne marque pas là-dedans, mais on voit que ce prologue est nourri d'expressions du livre de la Sagesse. Ressaisit à sa main. J'ai pointé d'un petit carré, d'abord, les divers personnages qui interviennent. Il y a Dieu, il y a les pères dans la foi, parmi ceux-ci, il y a les prophètes. Puis de nouveau, il y a un nous, qui est le nous ecclésial. Il y a un Fils. On verra pourquoi il ne dit pas le Fils, pourquoi il dit un Fils. Et puis, plus loin, il sera encore au verset 4, question des anges. Voilà un peu pour les personnages, si je peux dire, qui interviennent dans cette ouverture de la lettre. Ce que j'ai signalé d'un trait, par exemple devant ayant parlé, ou bien de l'endroit, c'est tous les participes présents. Grammaticalement, il joue sur les verbes principaux, mais en étant rayonnement de sa gloire, en portant toute chose, en ayant effectué une purification des péchés, en étant devenu pour le Fils. On commence par le temps passé, qui bien sûr va contraster avec, au verset 2, l'extrémité dernière des jours que voici, l'accomplissement des temps, qui désigne le moment où le Messie attendu arrive. C'est ça. Donc il y a le temps passé, le temps de l'Ancien Testament, hein, qui précède les jours que voici. Mais c'est un même Dieu qui, de l'un à l'autre, l'Ancien et le nouveau intervient et qui demande à l'autre parle. Ayant parlé, eh bien, il nous parla. À qui parlait-il? Au Père. À qui parle-t-il maintenant? À nous. Comment parlait-il au Père? Dans les prophètes. Comment parla-t-il à nous? En un fils. Il dit un fils parce que, et c'est annoncé par le verset 4, ce fils est situé plus haut que les anges même, et il est annoncé qu'il va insister sur sa qualité filiale. C'est pour ça qu'il dit, nous comprenons bien que c'est le fils unique. Mais nous parla, c'est comme s'il disait, nous parlons quelqu'un qui lui est fils. Qui est un fils. Il insiste sur ce point parce qu'il va, dans la lettre aux Hébreux, c'est un trait original de la lettre, faire valoir la figure de Jésus comme grand prêtre. C'est le seul écrit du Nouveau Testament qui parle de Jésus comme grand prêtre. Et s'il est grand prêtre, c'est précisément parce que, selon ce qu'on attendait d'un prêtre, d'être un bon médiateur entre Dieu et les hommes, il l'est de manière parfaite, parce qu'il s'est pleinement rendu solidaire des hommes jusqu'à la mort, et que d'autre part, il est le plus proche de Dieu en tant que son fils. Donc en disant en un fils, il prépare le fait que c'est sur ce fond de sa qualité filiale que Jésus va être accrédité comme grand prêtre à l'autre part. Il parle là. Hein. Et puis à partir du moment où il a introduit un fils, jusqu'ici, c'est Dieu qui était le sujet. Dieu ayant parlé au Père, Dieu parlant en un fils. On continue. Mais on va se centrer sur le Fils de plus en plus. Ce Fils, il, c'est toujours Dieu, disposa à héritier ce Fils de toutes choses. Et ce début du verset 3 va trouver son écho à la fin du verset 4. Ce Fils, il a hérité, c'est le même terme. Il a disposé à héritier. Par qui? Par le Fils. Il fit les siècles, c'est toujours Dieu qui est sujet, mais Dieu qui a disposé son Fils comme héritier, c'est par son Fils qu'il a fait les siècles. Puis, donc vous voyez le jeu des relatifs. Qui il disposa? Par qui il fit les siècles? Et qui? Le Fils. Cette fois-ci, le Fils devient sujet des verbes. Le Fils, en étant rayonnement de la gloire, de sa gloire, c'est-à-dire du Père, et empreinte de sa substance, aussi bien qu'en portant toutes les choses par le verbe de sa puissance, là on remonte un peu dans l'éternité, l'égalité du Fils, en rayonnement de gloire, empreinte de la substance du Père, en portant toutes choses, c'est le verbe en tant que soutenant l'œuvre de création, puis, on continue, Verbe, cette fois-ci, en son incarnation, ce qu'il a fait pour nous, en venant dans l'histoire, en ayant effectué une purification des péchés, il s'assit à la droite de la majesté dans les hauteurs. C'est-à-dire, c'est son abaissement, cette purification des péchés, ça va être dans son sacrifice à la croix, son sang, mais alors sa glorification, il s'assit à la droite de la majesté, une autre manière de nommer Dieu, dans les hauteurs. Et là, il est en train d'introduire un thème capital de la lettre, au sens où il va montrer que si le Christ est grand prêtre, par excellence, c'est que, mieux encore que les grands prêtres de l'Ancien Testament, qui notamment au jour du grand pardon, offraient des sacrifices pour la purification des péchés, et devaient le faire une fois chaque année, Christ, une fois pour toutes, n'a pas offert un sacrifice extérieur à lui-même, mais s'est offert lui-même et a obtenu une purification des péchés sans nul point de comparaison avec ce à quoi tendaient les sacrifices de l'ancienne alliance. Ben, je m'explique d'une manière un peu plus condensée, mais pour celui qui connaît la lettre, on voit qu'il pose déjà une série de termes déterminants. Et c'est dans ce passage, par son sacrifice, mais en même temps un grand prêtre qui demeure pour l'éternité parce qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de sa majesté, c'est en cela qu'il est notre grand prêtre. C'est ça qui est annoncé dans cette seconde partie du verset 3. Et puis le verset 4 remonte ce par quoi il va commencer le développement suivant. En étant devenu d'autant supérieur en pouvoir aux anges, que c'est un nom plus distingué par rapport à eux qu'il a hérité. Il va montrer comment le Fils éternel bien est plus grand encore que les anges. Et le nom plus distingué dont il a hérité, c'est son nom de seigneurie. Et c'est un nom de fils. Il va commencer en disant, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ?» En prenant la parole du Seigneur. Le nom plus distingué, c'est un nom filial et un nom seigneur. Voilà pour le début de la lettre aux Hébreux. Le début de la lettre aux Romains. Ça va ? Suivez ? Le début de la lettre aux Romains. Dans une entête de lettres, ce qu'on appelle une adresse épistolaire, il y a comme un petit schéma habituel, conventionnel, que l'on suit. Qui, en qualité de quoi, s'adresse à qui, pour souhaiter quoi, de la part de qui ? Paul, par exemple, ou bien Paul et Timothée. En qualité de quoi ? Apôtre ou serviteur de Jésus-Christ. À qui ? À l'Église et les saints qui sont à Corinthe. Le souhait habituel, c'est grâce et paix. Dans le pastoral, on a pour rajouter miséricorde. Et de la part de qui ? Habituellement, de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est le schéma habituel d'une adresse épistolaire. Ce qui est toujours intéressant quand on a un schéma, c'est de voir ce qui déborde le schéma habituel et qui indique la spécificité d'une intention pour cette lettre-là. Comme vous vous souvenez, par exemple, dans le schéma vocation de Moïse, alors que celui qui est interpellé objecte ou demande, je ne suis pas assez prophète pour parler, etc., il y a une deuxième objection de Moïse, s'il me demande quel est son nom, là, c'est un passage unique dans la révélation. Je ferme la parenthèse. Ce qu'il y a ici de propre, c'est tout le développement, ce qui est très rare, établi à part pour l'évangile de Dieu qu'il promit d'avance par ses prophètes, par qui, etc. Donc Paul, après avoir dit esclave de Christ Jésus, appelé comme apôtre, ça c'est habituel, il rajoute, établi à part pour l'évangile de Dieu, un évangile qu'il promit d'avance par ses prophètes dans les Écritures saintes, ce n'est pas tout à fait étranger au premier verset d'Hébreux, parler au Père par les prophètes. Eh bien, l'évangile de Dieu, il concerne son fils, à propos de son fils. Dès qu'on a nommé le fils, on commence à parler un peu plus de lui. Son fils, qui est devenu de la descendance de David selon la chair, et qui était établi fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Il y a un certain contraste, selon la chair, selon l'esprit, et qui sont dans le grec katasarka, katapneuma. Devenu de la descendance de David selon la chair, ça ne veut pas dire que Paul ne croit pas que le Christ ait été conçu par l'Esprit Saint, mais on sait bien que l'inscription de la descendance, selon la logique journelle, par Joseph, se fait dans la lignée de David. Et d'autre part, établi fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas fils avant, dès l'origine, mais que c'est dans sa résurrection qu'éclate pleinement sa gloire filiale. C'est pour ça qu'il dit « établi, fils de Dieu, avec puissance ». C'est à ce moment-là qu'il est attesté avec puissance comme fils de Dieu. Puis on le nomme Jésus-Christ notre Seigneur, par qui, et là, Paul est en train de glisser à la mission qu'il a reçue. Donc, il a dit « le contenu de l'évangile concerne ce fils », il en a dit deux mots déterminants, et bien Jésus-Christ, par qui nous, alors, nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Paul est en train de décliner la spécificité de sa mission à lui. Il est l'apôtre des nations. Et il a ainsi été appelé apôtre pour, et a reçu sa grâce et son apostolat pour l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Une expression assez typique, obéissance de la foi au sens d'une obéissance qui écoute, qui acquiesce. Il va parler plus loin de l'obéissance d'Abraham dans la foi. Il va prendre connaissance. Et l'expression va revenir tout à la fin de la lettre pour encadrer, en quelque sorte, la lettre entre ses premiers versets et ses derniers versets. Pour l'obéissance de la foi dans toutes les nations, en faveur de son nom qui est Jésus-Christ notre Seigneur, bien sûr, et des nations dans lesquelles vous êtes vous aussi appelés de Jésus-Christ. Donc, le double point de vue, nous, ceux qui ont reçu mandat d'apostolat, et le vous de leur destinataire, des récepteurs, dans lesquels vous êtes vous aussi appelés de Jésus-Christ, et qui prépare évidemment la spécification de ce vous comme étant le vous de ceux qui sont à Rome. À tous ceux qui sont à Rome, aimés de Dieu, appelés comme saints, donc ça, c'est l'élément habituel de on désigne les destinataires, on formule le souhait, grâce à vous et paix, et de la part de qui? De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On a un peu les éléments qui vous donnent une idée de ce qu'on a comme schéma dans une adresse de lettre paulinienne, mais aussi en quoi, lorsqu'il y a un développement spécifique, inattendu dans cette adresse d'un élément, tout d'un coup, appelé comme apôtre, établi à part, puis hop, là, il est parti déjà dans un premier énoncé du contenu de son évangile, proclamé Jésus-Christ, et le proclamer spécifiquement dans un apostolat tourné vers les nations. Voilà quelques exemples de début de décrit du Nouveau Testament. Nous allons prendre, si vous voulez, maintenant je vous propose de prendre deux textes que vous connaissez. D'une part, une hymne de saint Paul, et d'autre part, un passage évangélique. L'hymne de saint Paul, l'hymne philippien, vous l'avez sur la page 31. Je commence par la lire, vous la connaissez, mais je la situe dans le passage global où elle intervient, c'est-à-dire en lisant aussi les versets qui précèdent, pour que vous voyez la fonction de cet hymne dans la lettre aux Philippiens. D'abord un mot sur la lettre aux Philippiens. Philippe se situe au nord de la Grèce. Lorsque Paul est passé en Grèce, vous vous souvenez, Thessalonique, Philippe, la ville de Philippe, d'ailleurs Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, la ville de Philippe. Donc, c'est pratiquement la première communauté chrétienne qu'il a fondée en Europe, entre guillemets. Il est resté très attaché aux Philippiens, qui, lorsqu'il a dû descendre pour évangéliser d'autres communautés, l'ont soutenu de leur aide, notamment matérielle, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins dans son apostolat, se sont consacrés tout entier à la parole. Et cette lettre a un caractère très cordial, très chaleureux. Paul a une grande affection pour les Philippiens. Ça, c'est pour situer un peu le climat de la lettre. Ça ne veut pas dire que cette lettre, qui est celle dans laquelle l'affirmation de la joie et l'invitation à la joie résonnent plus, je le dis à nouveau, soyez toujours dans la joie, etc., c'est tiré de la lettre aux Philippiens. Ça ne veut pas dire que c'est une joie un peu superficielle et béate. L'hymne aux Philippiens célèbre un Christ qui est passé par l'abaissement, et par n'importe quel abaissement, jusqu'à l'abaissement de la croix. Voilà. Ceci pour situer dans le contexte global de la lettre. Je prends le début du chapitre 2. Paul au chapitre 1, j'ai mis en haut de la page, quand même, a fortement parlé de son union au Christ et du fait que la joie qui est la sienne n'est pas une joie qui exclut les souffrances, mais qui les porte avec le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un bien. Il m'a été fait grâce, à la grâce du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ceci pour vous dire, le ton n'est pas naïf. Chapitre 2. Si donc il est quelque consolation, c'est le terme de la, l'encouragement, c'est littéralement c'est la paraclée, c'est le terme de l'esprit paraclée, qui console, qui encourage, qui réconforte, qui soutient. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque réconfort d'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse de compassion, eh bien mettez un comble à ma joie. Je vous ai dit qu'il parlait beaucoup de la joie. La sienne, moi sentir que la joie qu'il attend, c'est pas simplement le soutien matériel des Philippiens, mais un soutien spirituel. Mettez un comble à ma joie, afin que... Donc c'est une traduction au niveau littéral, qui suit le grec, c'est un français un peu barbare, mais pour pouvoir faire des rapprochements précis dans le texte. Afin que vous pensiez la même chose, le verbe qui dit penser, c'est un verbe ici, c'est pas la pensée nationale, c'est l'attitude d'esprit et de cœur, que vous ayez la même disposition, le même amour, la même âme, l'unanimité littéralement, ensemble d'âme. Et il reprend que vous pensiez de nouveau que vous soyez dans une même attitude. Il souhaite, mettez-en comme à ma joie, par votre unanimité. Puis il le dit, il vient de le dire positivement, il le dit négativement. Évitez ce qui contredit cette unanimité. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien selon la dispute, rien selon la vie de gloire, la vaine gloire, la gloire du monde. Mais, souvent Paul raisonne, pas ceci, mais cela. Il aime bien les contrastes. Mais, au contraire, par pensée d'abaissement, d'humilité littéralement, estimant les autres étant bien au-dessus de vous-même, ne cherchant pas chacun les choses de soi-même, de vous-même, mais au contraire, cherchant les choses des autres, l'orgueil, mais au contraire l'humilité, pas de recherche de soi, mais au contraire l'attention aux autres. Cela pensez entre vous, qui êtes aussi en Christ Jésus. C'est le verset charnière. Ce qu'il vient de dire, il dit, eh bien, cette attitude que je vous demande entre vous, c'est celle qui est en Christ Jésus. Et il introduit alors l'hymne qui... Alors, ce qu'il dit de Jésus va paraître comme le fondement de ce qu'il vient de demander aux Philippiens. En Christ Jésus. Lui qui, souvent, dès qu'on l'a nommé, on commence à détailler ce qu'il a. Lui qui, en forme de Dieu subsistant, n'estima pas comme une usurpation d'être égal à Dieu, mais au contraire, il se vida lui-même, prenant forme d'esclave, en similitude d'homme devenu, ayant pris une similitude, hein, et par son aspect trouvé comme un homme, il s'abaissa lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. On vient de faire un vaste mouvement descendant. Il était subsistant en forme de Dieu, mais il se vida lui-même, prenant forme d'esclave, en similitude d'homme, c'est l'abaissement de l'incarnation, il a pris notre condition humaine, Dieu qui était, d'ailleurs par son aspect trouvé pour un homme, mais il s'abaissa plus encore, pas simplement du fait de partager notre humanité commune, mais en devenant obéissant jusqu'à la mort, et pas une mort naturelle, une mort cruelle, la mort de la croix. Donc on descend le degré de l'abaissement, l'humiliation. Et puis on amorce la remontée. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a gratifié le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que dans le nom de Jésus, tout genou plie sur cieux, sur terre et sous terre, et que toute langue confesse, voyez les tout, hein, tout nom, tout genou, toute langue, vous confesse quoi que Seigneur et Jésus-Christ, et à la gloire de Dieu le Père. On remonte à la gloire à Dieu le Père, dont il vient, le début du verset 6. Il était subsistant en forme de Dieu, et bien, il s'abaisse, et Dieu le glorifie, et voilà, son titre, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme toujours, vous avez envie, travaillez à votre salut. Là, il revient à ses destinataires, en disant, eh bien, c'est dans cet esprit-là, le Christ, cet esprit d'abaissement, que vous devez obéir. Il vient d'employer le terme pour le Fils, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et bien, ainsi donc, à la suite, obéissant, travaillez à votre salut. Donc, on voit que l'hymne évoque l'abaissement du Christ dans l'incarnation, jusqu'à la mort de la croix, et puis son élévation. Alors, quel est le nom au-dessus de tout nom? Vous vous souvenez que le début de la lettre aux Hébreux, il a hérité un nom bien supérieur aux anges. Hein? Bon. Quel est le nom? Est-ce que c'est simplement, d'habitude on comprend, afin qu'au nom de Jésus, tout genou plie, c'est simplement Jésus, qui est son nom d'humanité, bien sûr. Non, le nom en question, c'est le titre complet, Jésus-Christ Seigneur. C'est ça le titre. Et c'est parce qu'il est Christ et Seigneur, évidemment, tout genou, la expression totalité, sur les cieux, sur la terre, sous terre, selon la représentation du cosmos, alors, partout, cette universalité, eh bien, confesse. Et que toute langue confesse, c'est le terme de la confession de foi. Le terme technique qu'on utilise pour désigner la confession de foi. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour montrer que Paul est cohérent, dans sa lettre aux Philippiens, il parle beaucoup de Christ, il parle de Jésus, du Christ, et à partir du moment où il a introduit ce titre solennel, Jésus-Christ est Seigneur, dans son texte même de la lettre, il en parle toujours comme Seigneur. Il change la manière, c'est comme s'il y avait une charnière, à partir du moment où dans l'hymne, il a proclamé la seigneurie du Christ, eh bien, pour la suite de la lettre jusqu'à la fin, il va insister sur le caractère seigneurial du Christ. Seigneur, je termine par là, vous voyez bien que c'est le terme par lequel on désignait déjà Dieu, en général, dans l'Ancien Testament, qui est rendu dans le grec par Kyrios. Lorsque nous disons Kyrie eleison, c'est Seigneur, prends pitié. Évidemment, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'avec le Christ, ce titre proprement divin, et supporté aussi, attribuable au Fils, et désigne spécialement le Seigneur dans sa gloire de ressuscité, le Seigneur Jésus. Il est Seigneur, comme on dit de Dieu le Père, qu'il est Seigneur. Et comme on dit de l'Esprit Saint, je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Dire Seigneur des trois personnes divines, c'est attester leur égalité de gloire divine. Je prends le texte. Donc ceci, c'est une hymne. Vous savez que dans la prière du bréviaire, il y a des hymnes qui sont intégrés. Il y a des cantiques. Il y a des cantiques du Nouveau Testament, notamment les cantiques assez nombreux qu'on trouve dans les évangiles de l'enfance chez Luc. Le cantique de Zacharie, du Vier Simon, le cantique du Magnificat de Notre-Dame, bien sûr. Il y a aussi des passages hymniques qui sont davantage des passages priants de la part de Paul. Paul est capable, en sous-unis, de donner des conseils pratiques pour les communautés, de faire de grands développements théologiques, mais aussi à un moment donné, de prier. Et c'est une des grandes hymnes du prière, celle-ci. Zachée. Vous connaissez le récit, je ne vais pas le relire. Mais je le prends sur la page 32 et je commente. Annexe 30. Le contexte, je vous l'ai mis en annexe 33 au dos. Là, vous avez un commentaire un peu rédigé en une page de l'épisode de Zachée. Et je commence par situer le contexte. Je commence au mal. Nous sommes en route vers Jérusalem. Le troisième évangile met en évidence la montée de Jésus vers Jérusalem, le lieu de sa passion résurrection. Luc y insiste particulièrement. À telle enseigne que dans les trois tentations de Jésus au désert, l'ordre est un peu différent des tentations chez Matthieu. Luc s'arrange pour terminer par la tentation qui se passe où le diable amène à Jérusalem au sommet du temple et lui dit « Jette-toi en bas ». Et conclut cette tentation en disant « Ayant épuisé toute tentation, alors le diable le laissa jusqu'au moment fixé ». Ça veut dire que la tentation, elle reviendra de manière cruciale, c'est le cas de le dire, à Jérusalem, précisément. Ceci pour dire que de manière générale, Luc insiste sur la montée à Jérusalem. Et dans le cadre de cette montée vers Jérusalem, on passe par Jéricho, pour entrer en terre promise. Si bien, à partir de la Transjordanie, on passe plus ou moins, on passe par Jéricho, et on monte vers Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc, Jéricho, on monte vers Jérusalem. Eh bien, l'annonce de la passion a c'est fait dès le chapitre 9, le chapitre 13, il est encore scandé. Et dans ce contexte où Jésus s'avance vers sa passion, il passe par Jéricho, de soi une ville de passage, mais où, aux surprises, il va s'arrêter plus longuement que prévu pour loger chez Zachée. Voilà un peu le contexte. Je prends le texte. Étant entré, donc à l'entrée de la ville, si vous voulez, étant entré, Jésus passait par Jéricho. Et voici un homme, et il était chef de, appelé du nom de Zachée, et il était chef de publicain, et il était riche. On commence un homme, et on commence par donner des déterminations objectives, sociologiques. Son nom, ce qu'il faisait, c'est un chef de publicain, et il était riche. Et que, donc, on a présenté ce personnage. Il cherchait à voir Jésus, qui il est, littéralement. Et il ne pouvait pas à cause de la foule. Là, on apprend que non seulement il était chef de publicain riche, mais il était de petite taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore afin de le voir. Car il avait passé par là. Jésus passait par Jéricho, mais dans son passage, plus précisément, il va passer par là. Zachée se tient. Comme il venait à cet endroit, levant les yeux, Jésus lui dit : Zachée, descends vite. Aujourd'hui, en effet, dans ta maison, il me faut demeurer. Et vite, il descendit et il l'accueillit en se réjouissant. Voyant cela, tous murmuraient en disant « C'est chez un homme pécheur qu'il est entré loger. » Debout, Zachée dit au Seigneur « Voici, la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui redonne le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut pour cette maison est advenu. » Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Jésus lui dit, mais on comprend qu'il parle aussi aux autres, en disant lui aussi est un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Connaissez bien le récit. Luc, dans les passages qui lui sont propres, construit vraiment très bien son récit. Étant entré, Jésus passait par Jéricho. Puis la fin du verset 4, il allait passer par là. Ces deux expressions encadrent, délimitent un peu le contexte, avec présentation des personnages, les circonstances dans lesquelles on se trouve. Puis, comme il venait à cet endroit, à ce moment-là, on va approcher du moment de la rencontre. Comme il venait, et le verbe venir va revenir. Au verset 10, à la conclusion, le fils de l'homme est venu chercher. Donc il y a un venir matériel, il venait à cet endroit, mais il y a un venir qui vient de plus loin. Le fils de l'homme est venu en ce monde, comme dit Jean aussi, chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez chacune des parties, eh bien, il y en a quatre. Le passage par là, la venue. La première partie voit que le thème du voir est important. Vous vous souvenez, dans l'épisode de Moïse et l'Huisseau Ardent, Moïse est intrigué, il veut voir, c'est Dieu qui le voit et qui dit « J'ai vu la misère de mon peuple », etc. De même ici, on a un jeu du regard. Zachée, il cherche à voir Jésus. On insiste. Il monte sur un sycomore afin de le voir, car il allait passer par lui. Alors le voyeur est vu, comme dans Moïse. C'est Dieu qui le voit s'approcher du buisson ardent. Comme il venait à cet endroit, levant les yeux, Jésus lui dit, Zachée descend vite et puis tu descends. Il y a encore un quatrième voir au verset 7. C'est le voir de la foule. Le troisième personnage. Retenir. Jésus et Zachée mis un troisième personnage, la foule. Voyant cela, tous murmuraient en disant c'est suffisamment le pécheur qui est entré. Donc le jeu du voir est important. Bien sûr, le jeu du contraste. Il monta sur un sycomore, et puis on va leur faire descendre. Zachée, vite, descend. Et la manière dont il y a une correspondance signifie très simplement entre l'invitation de Jésus et l'exécution, la réponse prompte de Zachée. Vite, il descend, vite, il descendit. Jésus lui dit, aujourd'hui, dans ta maison, il faut demeurer. Parle à Zachée. Il va reprendre cela lorsqu'il va, enfin, aujourd'hui, le salut pour cette maison t'advenu. Donc c'est un aujourd'hui où Jésus doit demeurer chez Zachée, mais on va comprendre que c'est un aujourd'hui où, dans ce loger, dans ce demeurer, c'est le salut qui vient. Il était entré en Jéricho, verset 1, et il s'arrête, il faut loger, je sais pas, il est entré jusqu'à loger chez un péché. Vous voyez que les verbes de mouvement, passer, venir, entrer, simplement, ponctue le récit. Il est allé loger chez un homme pécheur. À la qualification un peu sociologique du début, Zachée, un chef républicain, il est riche, il est de petite taille, des traits encore un peu extérieurs, il y a une qualification ici qui est un jugement moral. Chez un homme pécheur. C'était pas faux. Mais Jésus va révéler qu'il y a plus que cela, un homme pécheur. Il va dire, celui-ci aussi est un fils d'Abraham, plus profond que son caractère pécamineux, il a son identité de fils d'Abraham. Lui aussi est un fils d'Abraham. Vous voyez justement, à la fin précisément, c'est précise, on voit le retournement de Zachée au verset 8, hein, à travers son propos, voici Seigneur, il nomme Jésus Seigneur, rien, le bon pauvre, s'il fait du temps, je redonne. Quatuple, et la réponse de Jésus, Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est advenu pour cette maison, et la justification, c'est que lui aussi, Zachée, est un fils d'Abraham, et celui qui vient loger chez ce fils d'Abraham, là Jésus décline son identité, le fils de l'homme, chercher et sauver ce qui était perdu. Face au fils d'Abraham, il y a le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est encore chose que voici un homme appelé du nom de Zachée. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors il y a une dernière correspondance qui n'est pas signalée, qui n'était pas signalée dans ce tableau que j'ai emprunté à cette disposition à un auteur, mais que moi j'estime peut-être l'inclusion la plus importante, c'est l'usage du verbe chercher au verset 3. Ça commence par Zachée cherche à voir qui est Jésus. Et à la fin, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Avant qu'on cherche Dieu, déjà il nous a cherchés. Saint Augustin dit, tu ne me chercherais pas si tu m'avais déjà trouvé. On peut paraphraser, tu ne me chercherais pas si je ne t'avais d'abord moi recherché. Un peu ça, là. L'enjeu de cette réponse dans l'usage du verbe. Voilà pour le déroulement du récit. Je prends au dos de la page et je souligne. Donc, en route vers Jérusalem, c'est le contexte. L'attention au marginal, c'est un rappel du fait que chez Luc, à l'enseigne de ce sur quoi je suis tombé comme passage scripturé dans la synagogue de Nazareth, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a annoncé porter la bonne nouvelle aux pauvres. La priorité de l'annonce de la bonne nouvelle pour Jésus en Luc, eh bien Jésus va aller vers tous les marginaux, les pauvres matériellement, mais aussi les pauvres spirituellement. Zachée, assurément, n'est pas pauvre matériellement, mais il est spirituellement. Et il est en marge. On sent bien qu'on ne l'aime pas, parce que la foule joue comme un obstacle. Il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Et manifestement, on ne s'écarte pas en disant oh, monsieur Zachée est entré. Non, voilà. Le publicain, on l'est derrière. Donc il était quand même aussi par son métier, et d'ailleurs la réaction chez un pêcheur, il était marginalisé. Jésus va le réintégrer. Le chercheur cherché, le voyeur vu, je l'ai expliqué à travers le texte. Le troisième personnage, c'est ce que je vous ai dit un peu furtivement à la fin de la leçon passée, c'est que c'est fréquent chez Luc que dans une rencontre de Jésus avec un personnage, il y a un troisième personnage qui intervient, qui est spectateur, en quelque sorte, de la relation que Jésus instaure entre lui et le deuxième personnage. Et ce troisième personnage doit lui aussi recevoir un enseignement. Et Jésus fait toujours d'une pierre deux coups. Les deux coups, ici, c'est qu'il retourne au cœur de Zachée, mais qu'il dit aussi quelque chose à ceux qui le jugeaient. Lorsqu'il est chez Marthe et Marie, c'est chez Luc, les deux coups, c'est que Marie écoute la parole du Seigneur à ses pieds, mais Jésus dit quand même quelque chose à Marthe aussi. Les deux coups, c'est que lorsque Jésus est chez Simon le pharisien, la pécheresse vient et baigne ses pieds de ses larmes, et puis Jésus se tourne vers Simon qui disait « Si cet homme savait qui est la pécheresse qui le touche, etc. Hein, Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Un homme avec deux débiteurs, etc. Ah, c'est là le troisième personnage, etc. Ou bien encore dans la parabole du père et de ses deux fils. Un père avait deux fils, trois personnages. Et le fils plus jeune, mais le père a quelque chose à dire à l'aîné aussi. Quand mon fils est toujours avec toi, il fallait se réjouir, etc. Donc, on a un épisode qui fonctionne sur ce modèle ici, où l'enseignement de Jésus pour le troisième personnage, et ici c'est la foule, est important. Le dernier paragraphe que j'ai mis sur la feuille, puis je vais dire un petit mot de ce qu'il y a dans l'encadré pour terminer, c'est que ce passage de Luc est riche aussi de mots qui sont des thèmes lucaniens de Luc précis. Notamment, il y a l'aujourd'hui de Dieu, pour ne prendre que cet exemple-là. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur, annonce des bergers. Lorsque Jésus ouvre le livre dans la synagogue de Nazareth, seul on lui dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit à vos oreilles. Aujourd'hui, il faut demeurer chez toi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il dit, voilà. Donc l'aujourd'hui, Dieu est important. Il y a d'autres leitmotifs dans le texte. Mais voilà, vous pourrez lire ça. Je termine par une explication un peu plus théorique, mais qui s'éclaire une fois qu'on a lu l'épisode, qui se trouve dans l'encadre. Ceux qui sont spécialistes en analyse narrative disent volontiers que il y a une intrigue qui est là. On se demande, il ne sait pas voir Jésus, honte. Lorsqu'on entend pour la première fois l'histoire où vous la contez à un enfant, il y a du suspense. Il se demande ce qui va arriver. Quoi. Donc il y a vraiment une intrigue. Dans une intrigue narrative, il y a deux points qui peuvent susciter l'attente ou le questionnement du lecteur. Deux points de vue, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va se passer comme événement ? Jésus est sur la barque, la mer est déchaînée, la barque commence à se remplir, et comment ça va se dénouer ? Ou bien, il y a une autre intrigue qui porte sur, mais qui est le personnage ? Quelle est son identité ? les disciples d'Emmaüs, il y a une intrigue sur l'identité du personnage. C'est le voyageur qui les rejoint, hein, un pèlerin, un ami, reste avec nous. À un moment donné, l'intrigue, qui est à ce moment-là une intrigue dite de révélation, révèle qui est celui. Il le reconnut dans la façon du pain, mais pas sur l'identité de Jésus. Dans l'épisode de Zachée, il me semble que les deux choses jouent. Il y a une intrigue de résolution, c'est-à-dire qu'il porte sur les événements. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui advient, il est monté sur son arbre, on le fait descendre, Jésus va loger chez lui, et il se décide à donner aux pauvres. Donc il y a un retournement de ce point de vue-là. Mais il y a aussi une intrigue de révélation, c'est-à-dire qu'il porte sur l'identité. Souvenez-vous, la question de Zachée, il cherchait à voir Jésus, qui il était. Ce n'est pas simplement l'identifier, ben oui, c'est lui et pas un autre, mais comprendre la profondeur de sa personnalité. Et c'est Jésus qui va révéler aux foules l'identité véritable de Zachée. Ce n'est pas simplement un publicain, un pécheur, un petit détail, c'est avant tout un fils d'Abraham, pour lequel je suis venu. Et il y a aussi un fil de l'intrigue de révélation concernant l'identité de Jésus. Parce que, en enfin, il fait comprendre que le Fils de l'homme, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, c'est le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà un exemple pour que vous compreniez, parfois les théoriciens emploient des mots un peu compliqués comme ça, mais finalement ça donne quand même, une fois qu'on a compris, dans un fonction, quelques clés parfois qui peuvent être éclairantes pour éclairer un récit. Voilà, merci de votre attention.